Vous êtes sur RTL.
8h. RTL Soir, Thomas Soto, bonsoir Thomas.
Bonsoir Isabelle, bonsoir à tous et bienvenue dans RTL Soir. Elle est pianiste, elle a sorti son 5e album, elle préfère nettement Debussy à Beethoven et elle sera avec nous à 18h35. Son nom c'est Colette Maz. Ah oui, j'ai oublié de vous donner un détail. Hein. Colette, elle a 106 ans. Son piano, ça a été toute sa vie et ça reste toute sa vie. Et bien sûr, elle sera en direct avec nous. Bonsoir, Odernuccio.
Bonsoir, Thomas. Bonsoir à tous.
On découvre avec vous les grands titres de l'actualité de ce mardi 3 mars.
4 jours après l'agression d'un photojournaliste à Reims, le principal suspect mis en examen, il a été condamné 8 fois auparavant. Un retour vers une vie presque normale d'ici à la mi-avril. Entre-temps, de nouvelles restrictions attendues en France. Et puis, un lycéen sur 2 favorable au port des signes religieux en public d'après un sondage IFOP.
Et on en parlera avec Didier Lemaire à 18h15. Vous savez, c'est ce prof de philo de Trappe qui avait dénoncé tout ça. Il sera notre invité. La météo, Peggy Branche. Bonsoir Peggy.
Bonsoir Thomas, bonsoir à tous.
Il y a toujours un moment où ça se complique.
Et,
hein.
Oui.
Et c'est demain.
Et c'est demain, exactement. Un temps gris sur la moitié nord avec des averses sur l'extrême nord et une bande pluvieuse de l'Alsace aux Charentes le matin. Dans l'après-midi, les averses concerneront surtout le nord-est et dans la moitié sud, du soleil le matin, mis à part la grisaille sur le golfe du Lion. Dans l'après-midi, ça va se voiler. Le soleil résistera uniquement entre le sud-est et la Corse. Tout ça sous des températures qui vont chuter au nord. Les maximales seront comprises entre 6 et 15 degrés, jusqu'à 18 dans le sud-ouest.
Le petit pull va ressortir.
Exactement.
RTL Soir.
Mais tout d'abord, il y a ceux qui n'ont pas de chance et ceux qui ont carrément la poisse. C'est le cas d'une étudiante britannique. Pour une fois que ses numéros fétiches sortent à l'euro-million, elle n'a pas pu acheter son ticket, Marie Billon.
Et oui, Rachel Kennedy a économisé le prix d'un ticket de loterie, mais elle a perdu du même coup 210 millions d'euros. Sauf qu'en fait, elle n'a apparemment pas fait exprès. La jeune femme de 19 ans devait savoir qu'elle avait souvent la tête ailleurs puisqu'elle avait mis en place un prélèvement automatique sur son compte euro-million pour que chaque semaine soit prélevé le prix du ticket. Elle avait aussi enregistrer ses 7 numéros fétiches pour qu'ils soient joués et rejoués chaque semaine. Le 28 février, elle se connecte à son compte en ligne et est accueillie par ce message « Vos numéros ont été tirés au sort ». La jeune femme s'empresse d'appeler l'euro-million qui lui répond que oui, mais non, elle n'avait pas assez de fonds sur son compte, elle n'a donc tout simplement pas joué. Son petit ami semble le plus dépité des deux, postant un tweet qui a suscité beaucoup de commentaires. « Quand ta compagne décide de ne pas jouer à l'euro-million et que ses 7 numéros habituels sortent. » Alors, décision ou oubli, Rachel Kennedy prend en tout cas les choses avec philosophie. Nous ne sommes pas plus riches, dit-elle, mais nous ne sommes pas plus pauvres non plus.
Certes, mais quand même, ça doit être énervant.
Vous m'étonnez, Marie Billon, correspondante d'RTL à Londres.
Il est 18h03, 4 jours après l'agression d'un photojournaliste du quotidien L'Union à Reims. Eh bien, l'homme est toujours ce soir entre la vie et la mort.
Et un homme de 21 ans vient d'être mis en examen pour tentative de meurtre aggravé. Il était largement connu des services de police, Dimitri Ramelot.
Oui, 8 condamnations pour violence et trafic de stupéfiants pour cet homme arrivé à Reims il y a 3 ans et qui vit en famille. Un homme faisant partie d'un groupe de 30 personnes et qui se préparait à en découdre avec une autre bande. Et l'attaque a eu lieu lorsque le photojournaliste est arrivé dans le quartier Mathieu Bourec, procureur de la République de Reims.
Il a très rapidement été repéré, violenté par un individu à coups de poing et avec l'appareil photographique, sa présence dérangée.
Et cet homme s'est montré très agité en garde à vue et n'a pas voulu répondre aux questions des enquêteurs. Le procureur a demandé son placement en détention. Un deuxième agresseur principal présumé a été identifié pour cette attaque extrêmement rapide.
L'intégralité de l'agression fait moins de 57 secondes. Ce journaliste n'a même pas eu le temps de rentrer dans l'habitacle de son véhicule alors qu'il était à moins d'un mètre.
Ces identifications ont été possibles grâce aux images vidéo de la ville et récupérées auprès de témoins. Une compagnie de CRS a été préventivement déployée dès hier soir dans le quartier. L'agresseur présumé mis en examen, encourt la réclusion criminelle à perpétuité.
Dimitri Ramelot à Reims pour RTL. À Bondy, en Seine-Saint-Denis, une marche blanche était organisée cet après-midi en hommage à Aymen, cet adolescent de 15 ans abattu samedi dernier sous les yeux de son père. Un millier de personnes réunies, dont Shaina, sa camarade de boxe.
Aymen, c'est comme un petit frère pour moi. Sa perte, ça a touché toute la ville de Bondy, même je pense au-delà des frontières de Bondy. Il était jeune, il avait 15 ans. C'était un combattant, il était respectueux envers tous. Tous les mercredis et pendant les vacances scolaires, il était au centre, à la maison de quartier. Et c'est comme ça qu'on l'a connu et que tout le monde, je pense, l'a connu. Sociable, respectueux envers tous et toujours là pour aider, toujours là pour soutenir les gens. Et ouais, moi, ça m'a énormément touché, énormément peiné. J'étais très très mal les premiers jours. Et au fur et à mesure, on se doit d'être fort. D'être tous forts pour sa famille, je pense, et d'essayer de retenir nos larmes un maximum. Et on va se battre pour la violence dans nos beaux lieux, il faut que ça s'arrête pour lui.
Des propos recueillis par Valentin Boisset pour RTL. Une nouvelle conférence de presse demain pour faire le point sur la situation sanitaire.
Le rendez-vous de 18h, hebdomadaire.
Hebdomadaire. En attendant, Thomas, de nouvelles annonces sur les 20 départements sous surveillance renforcée. Le porte-parole du gouvernement a voulu donner un peu d'espoir.
Nous allons affronter encore des épreuves, c'est vrai. Mais pour la première fois depuis des mois maintenant, le retour à des vies plus normales est en vue. Il ne s'agit pas d'un horizon lointain et incertain. Il s'agit d'un horizon de plus en plus proche, peut-être, nous l'espérons, dès la mi-avril, auquel nous nous préparons.
Voilà, Gabriel Attal à l'issue des conseils de défense et des ministres ce matin. Il y a eu les deux. Il s'agit des 4 à 6 semaines évoquées par Emmanuel Macron pendant lesquelles il a dit qu'il allait falloir tenir.
Mais avant la sortie du tunnel, on s'attend à des nouvelles un peu moins réjouissantes demain, William Galibert.
Oui, parce que pour l'instant, la vie normale, et vous en plaisantiez, ça reste Jean Castex, ses diapos et ses fameuses conférences du jeudi soir. Alors demain, le gouvernement promet de la dentelle, du cas par cas, mais on nous répète aussi la volonté d'Emmanuel Macron, éviter au maximum les mesures radicales comme le confinement le week-end. Alors ça ne laisse pas beaucoup d'options, on peut encore baisser le nombre de clients dans les commerces, on peut cibler des rues ou des quartiers touristiques en particulier, on peut aussi renforcer le port du masque parce que dans certains coins, il n'est toujours pas obligatoire dehors. Et si jamais il faut tout boucler le samedi ou le dimanche comme à Nice ou Dunkerque, ça sera seulement avec l'accord des élus locaux. On sait par exemple que pour Paris, la maire Anne Hidalgo n'en veut pas. Donc sacrée équation à résoudre, surtout quand on sait aussi que les services de réanimation sont au bord de la saturation en Ile-de-France. Gabriel Attal tout à l'heure a lui-même prévenu que des semaines agitées, des semaines de gros temps nous attendaient.
Et pour faire passer la pilule, on l'a entendu, hein, William, le gouvernement évoque la mi-avril.
Oui, il évoque la mi-avril au mieux pour commencer la sortie du tunnel grâce au retour des beaux jours et aussi à l'accélération de la vaccination. Une réunion en ce moment est en cours à l'Élysée pour montrer qu'il faut y croire et qu'on travaille aussi à la suite à un pass sanitaire et au protocole pour rouvrir petit à petit les restaurants, les musées ou les salles de spectacle. Il s'agit de donner un peu d'espoir à ceux qui en ont ras-le-bol. Attention tout de même, Emmanuel Macron, à la fin de l'année dernière, avait déjà esquissé quelques dates, notamment pour les restaurants. Le 15 janvier, souvenez-vous, devait être en horizon et on sait très bien ce qui s'est passé ensuite.
Évidemment. Merci à vous, William Galibert. Et évidemment aussi cette conférence de presse du Premier ministre. Eh bien, vous la suivrez en fil rouge, comme tous les jeudis désormais, dans RTL Soir. On marque une pause dans un instant. Le voile au lycée, c'est pas un problème pour plus d'un lycéen sur deux. On y revient donc juste après.
RTL Soir. RTL Soir, Thomas Soto.
Il est 18h09, la suite du journal avec vous, Aude Vernuccio. Un lycéen sur deux se dit donc favorable au port de signes religieux ostentatoires à l'école. C'est la conclusion d'un sondage IFOP.
Et c'est 2 fois plus que chez les adultes. Un sondage qui montre une forme d'américanisation des mentalités. Patrick Tégéro, vous avez rencontré des lycéens à Toulouse et vous l'avez constaté, leur notion de la laïcité est parfois très floue.
Par exemple, Oscar, il a 15 ans, il se dit athée et très favorable à la laïcité.
Tu fais ce que tu veux avec tes vêtements, avec tes signes religieux ou ce genre de choses, mais t'essayes pas de le propager, quoi.
Pour Agathe, la laïcité, c'est d'abord une question de respect.
Je suis pas du tout contre que quelqu'un porte le voile ou porte une croix.
Vous avez une croix, justement, autour du cou?
Oui, j'ai une croix parce que je suis chrétienne. Et si on me demande de l'enlever, bah, sûr que ça va m'embêter. Mais là, c'est une petite croix et je pense que ça peut passer, quoi.
Moi, je suis musulmane.
Maya est en seconde, elle aussi, et ne porte pas le voile, tout comme ça. Mère d'ailleurs.
Je vois pas en fait ce que ça dérange les autres de porter le voile ou ça, parce que c'est sur notre tête, c'est pas sur la tête des autres. Mais c'est vrai qu'il faut toujours des règles, parce qu'il y en a qui font n'importe quoi avec, qui utilisent le nom des religions pour faire des choses qu'on fait pas quand on est religieux ou quand on croit en quelque chose, donc voilà.
Globalement, il semble que les lycéens croisés cet après-midi confondent laïcité et tolérance.
Patrick Tégéro, correspondant d'RTL à Toulouse. Le groupuscule Génération Identitaire dissout en Conseil des ministres, annonce du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, dans un tweet. Le groupe d'extrême droite est accusé d'inciter à la haine, à la discrimination et à la violence.
En bref, encore un nouveau coup dur pour les salariés de SFR. La direction prévoit 1700 départs volontaires courant 2021, cette année donc. 1700 départs volontaires, c'est 11% de ses effectifs. Et en échange, SFR promet de recruter 1000 jeunes diplômés sur 4 ans.
Et puis le groupe Fast Retailing, propriétaire de Comptoir des Cotonniers, ferme 74 magasins en France. 217 emplois menacés de suppression malgré plus de 9 milliards d'euros de trésorerie.
Aude, c'est une première. C'est une première. Un collectif d'ONG et de groupes autochtones colombiens et brésiliens a décidé d'attaquer Casino en justice.
Le groupe est accusé d'acheter du bœuf auprès d'exploitations qui participeraient à la déforestation de l'Amazonie. Le groupe qui a pourtant un devoir de vigilance, Gauthier Delombugard.
Oui, c'est selon une enquête diligentée par le collectif. Cela concerne des produits vendus dans les supermarchés en Amérique du Sud. Le groupe Casino et ses filiales auraient régulièrement acheté du bœuf à 3 abattoirs qui se fournissent auprès de fermes colombiennes et brésiliennes, responsables de la disparition d'au moins 50 000 hectares de forêt. Une pratique courante en Amazonie. Une fois les arbres coupés et les terres brûlées, les éleveurs lâchent leurs bêtes sur ces grandes étendues. Casino n'a pas respecté la loi sur le devoir de vigilance qui impose aux grandes entreprises de prévenir les atteintes à l'environnement, nous dit Adeline Favrel, porte-parole de France Nature Environnement, l'une des ONG à l'origine de l'action en justice.
On a identifié que Casino ne respectait pas donc la loi sur le devoir de vigilance, ne mettait pas en place un plan de vigilance pour limiter les risques liés à la déforestation et aux conséquences que ça a sur l'environnement et sur les peuples autochtones. C'est ce que demande la loi, c'est pour ça que nous la signons en justice avec un groupe d'ONG.
Casino juge cette action infondée. Maître Chapira représente le groupe français.
Ça fait de nombreuses années que Casino est en pointe sur ces questions. En partenariat avec des ONG locales en Amérique du Sud, comme par exemple Imaflora au Brésil, Casino lutte contre la déforestation. Le groupe est donc très serein par rapport à cette action qui n'apparaît pas fondée et qu'on perçoit plus comme une opération de communication.
Les ONG réclament 3 millions d'euros aux géants de la grande distribution afin de réparer le préjudice subi par les peuples autochtones.
Les explications de Gauthier Delombugard pour RTL. L'actualité à l'étranger, on vient de l'apprendre en Birmanie, les Nations Unies comptent 38 morts pour la seule journée d'aujourd'hui suite aux manifestations monstres contre la prise du pouvoir de l'armée.
Quelques mots de sport, il y a du foot ce soir.
La 28e journée de Ligue 1, 10 matchs ce soir au total, comme Lyon-Rennes à 19h. Bordeaux affrontera le PSG à 21h. Ce sera aussi le coup d'envoi pour Lille-OM.
Évidemment, les matchs de 19h, on les suivra en fil rouge dès 19h. La bonne nouvelle, la bonne nouvelle.
RTL Soir, la bonne nouvelle du jour.
Un double mystère résolu au Louvre, Thomas. 40 ans après leur vol, deux œuvres d'art datant de la Renaissance ont été restituées au musée. La police a retrouvé leurs traces, miraculeusement à Bordeaux, après une succession. Il s'agit d'un casque et d'une dossière d'armure incrustée d'or et d'argent datant du XVIe siècle. En revanche, on ignore toujours comment elles avaient disparu un jour de mai 1983.
Et on n'a pas de nouvelles des bras de la Vénus de Milo, toujours pas? Non. Bon. Merci beaucoup à vous, Aude. On vous retrouvera tout à l'heure à 18h30. On en parlait dans votre journal. Les jeunes et les adultes n'ont visiblement pas du tout la même vision de la laïcité. Tout de suite, Didier Lemaire, le prof de philo de Trappe qui a beaucoup fait parler de lui sur ces sujets ces derniers jours, est l'invité d'RTL Soir.
RTL Soir, Thomas Otto. RTL Soir, avec Thomas Otto.
Prof de philo à Trappe en région parisienne pendant 20 ans, il est actuellement en disponibilité de l'éducation nationale et vit sous protection policière depuis qu'il a dit en substance que la ville était tombée aux mains des islamistes, qu'elle était perdue. Didier Lemaire est donc l'invité d'RTL Soir. Bonsoir et bienvenue à vous, Didier Lemaire.
Bonsoir.
On en parlait à l'instant dans le journal. L'IFOP a donc réalisé une enquête auprès des lycéens pour les sonder sur la question de la laïcité. Résultat, les jeunes sont majoritairement favorables au port du voile dans les lycées. Plus de 52%, plus d'un sur deux dit oui au voile, au kippa, aux signes ostensibles, contre 25% chez les adultes. 38% de ces mêmes lycéens sont favorables à l'autorisation du burkini à la piscine. Un chiffre qui monte à 63% pour les élèves scolarisés en REP et à 76% pour les lycéens qui se déclarent musulmans. Est-ce que vous êtes surpris par ces chiffres, Didier Lemaire?
Je ne suis pas surpris par ces chiffres, puisque aujourd'hui, dans la société française, beaucoup de personnes se définissent non pas en tant qu'individu et en tant que personne humaine, mais par leur appartenance à une communauté supposée ou à un groupe. Et donc, on a là des réflexes identitaires qui sont affirmés dans ce sondage, qui sont évidemment inquiétants pour notre République.
Est-ce que ça ne doit pas aussi interroger les adultes? Est-ce que le monde n'a pas changé? Les jeunes ont visiblement un regard plus décontracté sur ces questions-là, non?
Oui, alors la question c'est de savoir si c'est aux jeunes de fixer les règles de leur éducation par leur consentement ou non, ou si c'est aux adultes de leur donner ces règles.
Ouais.
Moi, je suis un petit peu inquiet par l'usage qu'on pourrait faire de ce sondage.
Pourquoi?
En demandant finalement le consentement ou la compréhension des élèves du sens de cette règle. Il me semble que la laïcité, c'est le fondement même de notre République, puisque Le sixième article de la Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen dit que la loi est l'expression de la volonté générale et non pas d'origine divine. Et c'est ça, au fond, la laïcité. D'ailleurs, ce que les politiques...
Mais sauf qu'ils n'ont pas la même définition de la laïcité que les adultes. Visiblement, c'est plus à l'anglo-saxonne. Ça n'en fait pas des islamistes pour autant.
Ah non, absolument pas. Ça n'en fait pas des islamistes. Mais
pour eux, c'est moins grave, visiblement. C'est moins stigmatisant, c'est moins grave, il y a moins d'arrière-pensée derrière tout ça que pour certains adultes.
Oui, mais encore une fois, la question n'est pas, on ne va pas demander à un enfant de 3 ans si les règles qui sont proposées par ses parents lui conviennent ou l'agréent. Ils n'ont pas à le comprendre à cet âge-là. Je pense que les jeunes sont encore un peu trop jeunes pour comprendre le fondement des principes républicains et de ces règles. Laissons-leur le temps. Instruisons leur raison, développons leur sens critique et laissons-leur faire le chemin par eux-mêmes. Je pense qu'ils le comprendront à la fin.
Il faut leur en parler davantage à l'école, dans les cours ou pas ?
Non, je pense que les mathématiques sont en elles-mêmes laïques. Il n'y a pas de mathématiques musulmanes ou chrétiennes ou de gauche ou de droite. Faisons des mathématiques, faisons de la philosophie, faisons des sciences humaines, de l'histoire, de la géographie. Je crois que c'est le meilleur service qu'on puisse rendre aux jeunes.
Cette étude réalisée par l'IFOP, c'est la première depuis l'exécution de Samuel Paty. La question du droit des journaux à caricaturer les personnages religieux a également été posée aux lycéens. 49% soutiennent ce droit, c'est-à-dire qu'il y en a moins de la moitié. Et c'est 59% si l'on considère l'ensemble des Français. Et à propos des attentats, 16% des lycéens ne condamnent pas fermement les attentats de 2015. Hein, Charlie, le Bataclan, l'hypercachère. Qu'est-ce que la République a raté pour qu'on ait 49% des élèves qui se disent le droit à la caricature des journaux, c'est fondamental ?
Justement, la République, elle a déserté certains quartiers, elle a laissé se développer l'emprise islamiste, et donc il n'est pas étonnant que des enfants qui sont éduqués dans une communauté qui est fermée, dans des ghettos, finissent par penser comme on leur a inculqué.
Vous comprenez qu'ils pensent comme ça aujourd'hui ?
Absolument, oui.
Ouais. Et comment lutter alors ?
Là, je pense qu'il va falloir changer un petit peu les mesures que nous prenons. C'est-à-dire que la loi qui a été récemment votée de défense des principes républicains va...
Sur le séparatisme.
Le séparatisme, si vous voulez, va dans le bon sens, mais il va falloir élargir maintenant et avoir un véritable plan et pas simplement des mesures qui sont à décliner les unes à côté des autres, mais prendre le problème vraiment à la racine.
La loi de 2004 sur les signes ostensibles religieux, il faut la renforcer encore. Vous ne pensez pas qu'elle a du plomb dans l'aile, là, quand...
Oui, elle a du plomb dans l'aile. Maintenant, la difficulté, c'est de qualifier ces signes de signes religieux. Là, il y a une difficulté quand même énorme, eu égard à notre droit, parce que le voile est-il un signe, par exemple, si je prends le voile est-il un signe religieux ? Dans le Coran, il n'y a aucune obligation pour les femmes d'être voilées. Or, le voile est dit signe religieux uniquement par des organisations de type frères musulmans ou salafistes, qui sont des organisations criminelles. Et donc, il s'agit...
Il y a aujourd'hui en France des femmes voilées qui ne sont ni salafistes, ni sympathisantes des frères musulmans.
Bien sûr, mais le sens du port de ce signe, c'est quand même de porter un projet politique qui est incompatible avec les valeurs républicaines. Et ça pose un énorme problème pour nous.
Didier Lemaire, il y a eu une polémique lancée par la ministre des Universités, Frédérique Vidal, sur un supposé islamo-gauchisme qui serait très présent dans les facs. Elle a demandé une étude sur le sujet. Est-ce que vous, à l'échelle d'un lycée, de l'éducation nationale, vous y avez été confronté à cet islamo-gauchisme ? Est-ce que c'est une réalité pour vous ? Ou est-ce que vous dites non, mais là, c'est pas le sujet ?
Écoutez, moi, je suis professeur de philosophie. Dans ma salle de classe, je fais de la philosophie, je ne fais pas de politique.
Ouais.
Je ne suis pas concerné par ce problème.
Là, vous esquivez la question.
J'esquive la question après que des collègues aient des positions islamo-gauchistes, c'est une chose, mais je ne crois pas que dans le cadre de leur enseignement, ils puissent en faire part.
Donc pour vous, ce n'est pas un problème aujourd'hui au lycée ? En tout cas, à l'échelle de ce que vous avez connu, vous ?
Non.
Non. On va parler un peu de vous, justement. Vos propos avaient fait polémique. C'est parti d'une tribune dans l'Obs après la mort et l'exécution de Samuel Paty. Il y a eu beaucoup de polémiques également au mois de février. Vous avez choisi d'arrêter d'enseigner. Qu'est-ce que vous allez faire ? Vous quittez l'éducation nationale ou pas ?
Je suis mis en disponibilité, c'est-à-dire que je reste enseignant et je pourrais à tout moment reprendre mon métier et ma mission d'enseigner.
Donc aujourd'hui, vous n'enseignez plus ? Et vous n'êtes plus payé par l'éducation nationale ?
Je ne suis plus payé par l'éducation nationale, donc je suis en attente d'une nouvelle mission qui me serait confiée.
Par l'éducation nationale ?
Par l'éducation nationale ou peut-être par un autre ministère.
Et vous avez des pistes ?
Oui, j'ai des pistes. Il est trop tôt pour en parler, mais je souhaite poursuivre mon combat et poursuivre après avoir alerté, réfléchir maintenant, justement, comme je l'ai expliqué.
Quel autre ministère, on sait que Gérald Darmanin, vous avez soutenu, par exemple, le ministère de l'Intérieur?
Oui, bah écoutez, ça pourrait être ça pourrait être dans un cadre interministériel, ça pourrait être aussi des institutions qui sont déjà chargées de veiller à la prévention de la radicalisation, ça pourrait être aussi une mission plus générale, c'est à définir. Mmh. Il est un peu trop tôt pour en parler aujourd'hui, mais...
En tout cas, c'est dans les tuyaux.
En tout cas, je n'abandonne absolument pas le combat et je dirais même qu'au contraire, je vais donner maintenant toute mon énergie pour le poursuivre.
Mmh. Vous avez suivi quelques critiques, hein, Didier Lemaire également. Certains ont dit que vous en rajoutiez beaucoup. Marianne posait la question. Zozo de la République ou vrai lanceur d'alerte, philosophe mythomane ou citoyen laïque jusqu'au bout des ongles. Qu'est-ce que vous leur répondez ?
Je pense qu'en France, moi je suis très content d'abord de ce débat. Ouais. Ça a été un moment de crise nationale qu'il n'y a pas eu après l'assassinat de Samuel Paty parce que l'émotion finalement a empêché ce débat. Je crois que ma prise de parole a permis aujourd'hui de clarifier un certain nombre de choses. On a vu qui était républicain et qui ne l'était pas. Mmh.
Dans la presse, on peut ne pas être complètement d'accord avec
absolument.
Vous et être républicain quand même.
Bien sûr, bien sûr. Mais il y a certaines personnes quand même qui sont allées au-delà des critiques ou du débat et qui m'ont désigné comme une cible potentielle.
Qui
Écoutez, le maire de Trappes, ouais. Je pense qu'il en a quand même rajouté une couche.
Il dit que vous racontiez n'importe quoi, que des coiffeurs mixtes, il y en a à Trappes, que le préfet a dit que vous mettiez de l'huile sur le feu.
Oui, le préfet a dû revenir sur ses propos quelques jours plus tard. Donc, si vous voulez, oui, le préfet, moi je travaille avec le préfet depuis 3 ans. Je suis un des enseignants les plus vaillants. J'ai des actions de prévention dans toutes mes classes qui sont payés par la préfecture des Yvelines. Donc je connais bien, si vous voulez, ce terrain-là.
Vous n'avez aucun regret sur tout ce que vous avez dit? Vous maintenez tout de A à Z?
Écoutez, il y a peut-être ici ou là quelques inexactitudes, mais je l'ai déjà dit sur un plateau, une inexactitude n'empêche pas la vérité dans le fond. Et je crois qu'aujourd'hui, il y a des gens qui veulent relativiser l'emprise islamiste dans les quartiers. Ouais. Le déni continue de la part d'une grande partie de la gauche, malheureusement, je le constate. Et ce n'est pas nouveau. Raphaël Bacquer et Yann Chemin, lorsqu'elles ont publié
Journaliste
du Monde, lorsqu'elles ont publié La Communauté, ont essuyé exactement le même type de critique. C'est-à-dire qu'on va prendre un détail pour mettre en cause la parole de celui qui la porte.
Est-ce que vous êtes un homme menacé aujourd'hui ?
Écoutez, ça, c'est pas à moi de le. Je ne suis pas sur les réseaux sociaux, donc déjà, ça m'évite quand même les.
Est-ce que vous avez eu peur à un moment? Vous avez dit il faut me protéger parce que ça va mal tourner.
Quand j'ai écrit ma lettre aux enseignants dans l'Ops, des collègues m'ont dit il faut que tu préviennes ton proviseur et le commandant de police de Trappes parce que tu risques d'être menacé. Ce que j'ai fait, et c'est la police qui a décidé de ma protection. Moi, si vous voulez, je suis pas en mesure de l'évaluer. Je n'ai pas reçu, en tout cas directement, de menaces de mort. En revanche, j'ai des collègues en France qui, très récemment, ont reçu des menaces de mort. Et je pense que c'est partout en France, ce n'est pas seulement Trappes. L'école, aujourd'hui, est sous une très forte pression islamiste. On a d'anciens fichiers S qui ont menacé de mort. Des collègues à Nîmes, par exemple.
Récemment, là ?
Récemment, oui.
C'est-à-dire ?
Il y a quelques semaines. D'ailleurs, le fichier S en question, parent d'un enfant de 6 ans, scolarisé en CP, a été condamné à 6 mois de bracelet électronique. Et,
à la suite de ces menaces.
Oui, et un an de prison avec sursis.
Dernière question, vous êtes membre d'un petit parti qui s'appelle le Parti Républicain Solidariste. Est-ce que vous avez des ambitions politiques, Didier Lemaire ? Est-ce que ça peut être ça, l'étape d'après pour vous ?
Alors, si je puis me permettre, c'est pas un petit parti, c'est un parti jeune. Qui est en construction.
Il n'y avait pas de connotation d'appréciation là-dessus.
Tant mieux, alors s'il n'y en a pas. C'est un parti qui porte les valeurs républicaines, je dirais au-delà du camp droite-gauche. Je crois que notre pays aujourd'hui a besoin de se rassembler autour de la défense de la République et c'est le sens de mon combat. Et effectivement, je vais porter ces valeurs.
Donc vous êtes prêt à aller au combat électoral aussi, le moment venu éventuellement ?
Non, pour l'instant, non, c'est pas du tout la question.
Pour l'instant, c'est la mission interministérielle qui se dessine.
Écoutez, je ne sais pas, on verra ce qui est possible de faire pour le pays.
À quelle échéance ?
Écoutez, je pense qu'il y a bientôt des présidentielles qui vont arriver. Je crois qu'il serait temps que la France se ressaisisse et que nos concitoyens aussi se rassemblent.
Merci à vous, Didier Le Maire, d'être venu ce soir dans RTL Soir. Merci infiniment. Merci. À suivre, l'œil de Valérie Trierweiler. Il faut tenir 4 à 6 semaines, disait lundi le chef de l'État à un jeune avec qui il échangeait. Eh bien, Valérie a quelques idées, quelques suggestions sur ce qu'on pourrait faire de ces 4 à 6 semaines. À tout de suite.
Thomas Soto, RTL Soir.
18h30.
Thomas Soto, RTL Soir.
Et Aude Vernuccio pour le rappel des titres.
4 jours après l'agression d'un photojournaliste de l'Union à Reims, un homme de 21 ans mis en examen pour tentative de meurtre aggravé. Il a été placé en détention provisoire. Le suspect a été condamné 8 fois pour violence et trafic de stupéfiants auparavant, selon le procureur de la République. Le pronostic vital du journaliste est toujours engagé. Face à l'épidémie de Covid-19, 20 départements sous surveillance renforcée. Certains vont-ils être confinés le week-end? Nouvelle conférence de presse demain en présence du Premier ministre sur la situation sanitaire. Le porte-parole du gouvernement estime que le retour à une vie normale est en vue, peut-être dès la mi-avril, selon Gabriel Attal. Et puis un plan de départ volontaire à SFR. La direction prévoit 1700 départs, c'est 11% de ses effectifs. Les syndicats accusent l'opérateur de jouer sur l'effet d'aubaine du Covid.
La météo, Peggy, ça va pas se gâter pour tout le monde quand même. Non, mais ça va se gâter un peu.
Exactement. Beaucoup de nuages et quelques averses sur la moitié nord toute la journée et surtout sur le nord-est l'après-midi. Dans la partie sud, mis à part les grisailles matinales sur le golfe du Lion, le temps sera ensoleillé en remontant jusqu'en Alsace le matin. Mais dans l'après-midi, le ciel sera à nouveau voilé, bien voilé même entre l'Aquitaine et les Alpes. Et le soleil résistera uniquement entre le sud-est et la Corse. Tout ça sous des températures qui vont commencer à baisser. Demain matin de 1 à 9 degrés et l'après-midi, écoutez bien, de 6 à 15 degrés au nord jusqu'à 18 quand même dans le sud-ouest.
Merci Peggy. Nous sommes mercredi. Le mercredi, c'est Valérie, l'œil de Valérie Trierweiler. Bonsoir Valérie.
Bonsoir Thomas.
Alors là, je suis un peu inquiet parce qu'il paraît que pour votre chronique de ce soir, c'est Philippe Cavrivière qui vous a inspiré. On est mal barré là.
Oui, oui, parce que je l'ai écouté hier, enfin comme toujours, parce que je suis bonne camarade, vous savez, mais il m'a beaucoup fait rire, surtout quand il a parlé d'Emmanuel Macron et des 4 à 6 semaines qu'il fallait tenir face au Covid et surtout par rapport à l'heure d'été.
Oui, bah si on l'aurait écouté, tiens Philippe.
Mais 4 à 6 semaines, pourquoi? Pour passer le couvre-feu à 19h. Donc en gros, dans un mois et demi, on gagnera une heure. Ah ben merci, ça s'appelle l'heure d'été. Il est en train de nous vendre l'heure d'été. Peggy aurait très bien pu le faire.
Ben voilà, vous voyez, je ris à nouveau. Et alors coup, il m'a inspiré et je me suis dit, bon, 4 à 6 semaines, 4 à 6 semaines, on va prendre la moyenne 5 semaines.
C'est
5
ça.
Semaines, ça fait 35 jours. Et 35 jours, ça donne ça.
35 jours sans voir la terre.
C'est bien ça, Axel Bauer.
Oui, voilà. Mais surtout, vous savez, on peut faire des tas de choses en 35
Qu'est-ce
jours.
Qu'est-ce qu'on peut faire en 5 semaines?
C'est fou. Alors, évidemment, on ne va pas faire le Vendée Globe parce que le meilleur record, c'est 74
court.
Jours, ce qui était pas mal. Et ça, c'était détenu par Armel Le Cloac en 2016.
Le Cléage, s'il vous plaît, ne l'appelez pas
pardon.
Le Cloac.
Je ne prononce pas la bretonne, en 2016-2017. Bon, 35 jours, c'est aussi exactement le temps qu'il a fallu à Thomas Coville, je prononce bien, pour franchir l'équateur dans sa course en solitaire. Ça aussi, c'était en 2016.
Bon.
Thomas, est-ce que vous connaissez Jean-Pierre Majeux? Attendez, je prends mes lunettes et Colette Boutet.
Jean-Pierre Majeux et Colette Boutet. Alors moi-même, sans mes lunettes, Non.
Eh ben non. Moi non plus, je ne les connais pas, figurez-vous.
Bah donc ça va alors.
Mais
donc
ce couple-là a fait le tour de l'Europe en 35 jours à bicyclette, avec 30 kilos sur le dos. Ils ont pédalé pendant 3540 kilomètres, donc comme je vous le disais, en 35 jours. Ils ont ainsi traversé la Roumanie, la Serbie, la Croatie, la Hongrie, la Slovaquie, l'Autriche, l'Allemagne et la Suisse, avant de rentrer à la maison.
Voyons.
Alors, 35 jours, je peux vous en trouver d'autres. Hein. C'est exactement le temps que recommande le Conseil supérieur de la santé entre deux doses de vaccin Pfizer. C'est fou, non? 35 jours.
30, c'est beaucoup. Hein.
Et c'est aussi le temps qu'il a fallu à l'écrivain Joël Dicker pour réorganiser sa bibliothèque.
Bon, c'est un hasard tout ça. Hein, Valérie, je ne vais pas vous décevoir. Mais...
On pourrait croire que c'est un hasard, mais figurez-vous que c'est au 35e jour de jeûne dans le désert que Jésus permit à Lucifer de s'approcher pour le tenter. Hein, et le nombre 35 est employé 5 fois dans la Bible. Un hasard, tout ça? Je ne sais pas.
Ouais.
Vous savez, en numérologie, le nombre 35 est extrêmement positif. C'est la réussite, l'énergie créatrice.
Coucou, vous êtes Valérie Trierweiler, vous n'êtes pas Elisabeth Tessier. Hein. Vous êtes en train de vriller, là. Qu'est-ce qui se passe,
c'est
Valérie?
C'est vrai, non, j'arrête. Mais alors, rassurez-vous. Mais quand même, moins de 6 semaines, 35 jours, c'est le temps qu'il a fallu à Charles Dickens pour écrire son conte de Noël, qui est considéré comme son œuvre la plus parfaite. Et puis, vous savez, j'ai même déniché un roman qui s'appelle 35 jours.
Ah oui,
il est signé Virginie Ferreira. C'est l'histoire d'une jeune femme abandonnée par son fiancé le jour de son mariage. mariage. Bon, pas sûr que ce soit un chef-d'œuvre.
Bon. Et qu'est-ce que vous avez trouvé d'autre encore?
Eh bien, figurez-vous que je vous ai trouvé quelque chose au XVe siècle aussi, dans les mémoires de Messire Philippe de Comines, qui rapporte une entrevue avec Philippe le Bel, et il est précisé que le traité des cardinaux a lieu 35 jours avant l'élection du pape.
Oh.
Et puisqu'on parle élection, il a fallu attendre 35 jours de recomptage après l'élection en 2000 pour savoir qui succéderait à Bill Clinton.
Ah, aux États-Unis,
il se fut donc George Bush. Oui, on était aux États-Unis. Et évidemment, cette chronique ne serait pas complète si je ne vous parlais pas de l'élection présidentielle de chez nous, la française.
Ouais. Et pourquoi ?
Ben là, je vais vous lire parce que c'est la Constitution. La Constitution fixe un délai précis mais souple pour la tenue de l'élection présidentielle. Celle-ci doit se dérouler 20 jours au moins et 35 jours au plus avant l'expiration du mandat du président de la République. Vous voyez, voilà, voilà, c'est pas un hasard.
J'imaginais pas qu'on pouvait faire tout ça en 35 jours. C'est incroyable. Super idée en tout cas. Merci beaucoup à vous, Valérie.
Merci à vous. Et merci Philippe, parce que c'est grâce à lui.
Alors, on me dit qu'il vous écoute et qu'il a déjà réagi. Je pense qu'il répondra demain.
Alors à demain, je serai derrière mon transistor.
Il y a un vrai truc qui est en train de se nouer via les ondes entre Valérie et Philippe.
Bonne soirée à tous.
Je dis rien. Merci Valérie. Elle s'appelle Colette Maz. Elle est pianiste, elle est passionnée. Elle sort son 5e album. Jusque-là, c'est assez banal finalement. Sauf que Colette, elle a 106 ans. 106 ans. Et elle est en direct dans RTL Soir tout de suite.
RTL Soir. RTL Soir avec Thomas Soto.
Elle a sorti son 5e album, elle s'installe, un album consacré à Ravel, Satie, Fauré et surtout Debussy, un album qui s'appelle 105 ans de piano. Ces notes-là qu'on entend, extrait du Clair de Lune de Debussy.
Voilà.
C'est vous qui les jouez, Colette Maz. Bonsoir et bienvenue à vous.
Merci.
Je peux donner votre date de naissance ?
16 juin 14.
1914.
Non, 1914.
Vous avez 106 ans.
Mais si vous êtes bon en maths. Hein.
Non, j'ai compté avec mes doigts. Comment ça va, Colette Maz ?
Bien, très bien.
C'est vrai ?
Oui, non, mais j'étais asthmatique par mon père.
Oui.
Et puis c'est passé. Ça m'a perturbée quand même, sa fatigue. Oui.
Mais aujourd'hui, ça va mieux.
Oui, j'ai pu. Faut dire que. Aussi, je ne fais plus de cheval.
Ah bah, oui, on peut comprendre.
Parce que le poil du cheval, ça me donnait de l'asthme. Et puis le poil du gibier aussi.
Alors, vous avez arrêté le cheval, mais vous n'avez pas arrêté le piano.
Non, mais il sent pas mauvais le piano.
Vous faites combien d'heures de piano ? Vous jouez tous les jours ?
Ah ben oui, bien sûr.
Combien
bien
de temps ?
Bien sûr.
Combien de temps vous jouez par jour ?
Sur 4 heures minimum.
Vous faites 4 heures de piano par jour ?
Oui.
Et ça vous a pris quand, cette passion pour le piano ? Depuis quand ?
Depuis de petite fille, je crois. Parce que ma mère était très sévère.
Oui.
Donc, je ne recevais pas de tendresse de sa part, si je peux dire. Et comme j'étais douée, je reproduisais les musiques. Il y avait des petits garçons qui jouaient du piano au-dessus. Et tout de suite, je retrouvais les airs, si vous voulez. Donc, j'avais un. Et puis, ça me consolait.
C'était votre doudou, votre piano, en fait ?
Voilà.
Oui ?
Oui, quelque part, oui.
Je regarde vos mains, je suis stupéfait parce qu'elles sont, jeunes, elles sont dociles, vos mains. Comment vous faites ? C'est l'exercice, vous croyez ?
Ah bah ça oui, évidemment. Cortot a fait une méthode.
Oui.
Et surtout, au moment de la guerre, il y avait des prisonniers qui n'avaient pas de piano, mais sur une table, on peut regarder, on peut faire tous ces mouvements.
S'entraîner.
De s'entraîner.
Oui.
On peut. C'est comme nous, si vous faites la gymnastique, vous n'avez pas besoin d'avoir toute une pièce. Vous pouvez faire des mouvements presque.
Des petits mouvements comme ça, et ça suffit. L'entretien.
Ben oui.
Colette Maz, plus de 100 ans de piano. Ça fait un siècle que vous jouez du piano. C'est l'amour d'une vie, ça. C'est votre grand amour, le piano.
Oui, certainement. C'est. Ça me comble.
Ça vous comble ?
Parce qu'il raconte des trucs, le piano. Tandis que les personnes, elles ne sont pas très drôles. Hein.
Il raconte quoi ? Les hommes, non, ça va pas, les hommes ?
Non.
Non ?
Je pense que j'avais un idéal. Vous savez, les petites filles lisent des romans. Alors, les romans de Delhi, j'étais très... J'attendais ce prince charmant.
Il ressemblait à quoi, votre prince charmant, dans vos rêves de petite fille ou de jeune femme ?
Ah, il fallait qu'il soit un petit peu grand, ouais. Blond,
ouais.
Avec des yeux bleus.
Ouais.
Et puis voilà.
Il faut que je vous présente Laurent Delahousse, hein, il ressemble exactement à ça. Mais les autres hommes n'ont pas été jaloux du piano ? Ça ne vous a pas gêné dans votre vie personnelle, ce piano qui est envahissant quand même ?
Il fallait mieux un piano qu'un mec quand même.
Alors, cela dit, Colette, votre vie personnelle, elle n'a pas été simple. Vous avez un fils qui est avec nous dans ce studio et qu'on salue, qui est né d'une histoire d'amour cachée avec un homme marié.
Ouais. C'était un homme que j'ai aimé, et j'ai eu le cadeau de moi. Mais il était marié, et donc je n'ai pas pu l'épouser. Et lui, il était un peu coureur sur les bords aussi.
Mais vous n'êtes jamais rentré dans le moule, hein ? Vous n'avez jamais obéi, vous n'avez jamais fait ce que vos parents voulaient pour vous, ils voulaient vous présenter des hommes bien comme il faut. Ça, vous avez dit non.
Un mec des 200 familles, j'aurais des châteaux et tout. Ben, j'ai dit non.
C'est vrai ?
Ils n'étaient pas contents, mes parents.
Vous le regrettez pas ?
Ah ben non.
Non ?
Je regrette. Ce qu'on peut regretter, c'est une qualité d'amour. C'est ça qu'on cherche, quoi.
Ouais.
Non. Mais on ne regrette pas le château avec des bottes en cuir et trois chiens.
Ouais.
Non.
À quoi vous pensez, à quoi vous rêvez, Colette, quand vous vous installez à votre piano ? À quoi vous pensez ?
Ben, j'essaie de penser à ce que je vais jouer, non ?
Ouais.
Ce ne serait pas plus mal. Non, mais...
On va écouter encore quelques notes. Il y a un reflet dans l'eau de Debussy.
Oui.
C'est vous qui jouez. Jouez bien, ça vous plaît ? Alors Debussy, oui, mais Beethoven, pas trop. Hein. C'est pas trop votre truc.
Non.
Pourquoi ?
Il est lourdingue. Hein. Pardon, faut pas le dire. Mais c'est vrai. Tant, bon,
non,
d'accord.
Ça vous...
Non, il y a des très très belles andantes, adagio superbe. Non mais c'est immense, mais il est trop grand pour moi.
Il est trop grand pour vous ?
Et non. Il est trop lourd aussi.
Colette, vous avez traversé le siècle, vous êtes née avec la Première Guerre, donc en 1914. Quelle période vous avez préférée ? Il y en a une ou pas ? Une époque ?
Non, elles sont toutes nécessaires.
Ouais.
Je pense elles ont toutes leur charme et leurs ennuis aussi. C'est la guerre, j'étais infirmière en plus. Et puis bon.
Et notre époque, vous la trouvez comment aujourd'hui, là, l'époque qu'on vit ?
Je ne la vis pas parce que je suis toujours dans la lune.
C'est vrai ?
Alors, je ne sais pas. L'autre jour, on me demandait qui est le président de la République ? Ben, j'ai dit Chirac, mais il paraît
que... Ah non, c'est plus lui. Il y en a eu deux ou trois depuis. Il y en a eu quelques-uns depuis. Et c'est Emmanuel Macron, le président de la République, vous voyez ?
Ouais.
Et il a dit, avec le coronavirus, il a dit, c'est dur d'avoir 20 ans en 2020. Quel conseil vous donneriez, vous, aux jeunes d'aujourd'hui, là, qui disent que c'est dur ?
Quel conseil ? De danser.
De danser ?
Ben, oui.
C'est vrai ?
Oui, parce que ils écoutent de la musique, ils vivent un rythme, leur corps vit, ben, ils sont partis pour se battre.
Ouais.
Si vous êtes... Ça va pas.
Mais vous dansez encore, vous ?
Ben, bien sûr, toute seule.
Toute seule ?
Ben, je vais pas toute seule dans un dancing.
Ouais. Non, ils sont fermés en plus en ce moment, les dancing, donc c'est pas très pratique. Mais moi, je veux bien être dans un dancing avec vous et que vous m'appreniez à danser. Hein. Parce que moi, je danse très mal.
Oui, mais ça fait rien.
C'est vrai ?
Ouais.
Et ces disques-là, qu'est-ce qui vous a donné envie de sortir ces disques-là ? Il y a même un coffret qui va sortir au mois d'avril, hein, de Debussy.
Oui.
Pourquoi vous avez eu envie de publier des disques comme ça ?
Ah, moi, c'est pas moi. Hein.
C'est pas vous ?
C'est qui ? Non, C'est mon fils.
C'est votre fils?
Ah oui. Ouais. Non, mais c'est vrai. Je crois qu'il écoutait beaucoup de musique.
Ouais.
Puis il m'écoutait, puis je travaillais tout le temps. À un moment, il avait une chambre à côté de la mienne, donc il entendait le piano. Et il a dit, mais c'est pas mal ce qu'elle fait par rapport à ce qu'il entendait à la radio. Et j'ai passé une émission et j'étais reçue. Donc j'ai eu quelques... Puis ensuite, j'étais parachutée pour les disques. Voilà.
C'est quoi votre secret, Colette? Comment vous faites? Comment vous faites? Qu'est-ce que vous mangez un truc particulier? Vous buvez un truc particulier? Qu'est-ce que vous faites? C'est quoi votre secret?
Ben, je comprends pas. Moi, je sens une énergie en moi. Dans les muscles aussi.
Ouais.
Je resserre les abdominaux. Vous voyez, j'essaye de pas faire. Alors, je pense que le corps a ses raisons.
Oui.
Que la raison ne connaît pas, je ne sais pas. Mais, il faut l'écouter, être à l'écoute.
Oui.
Et puis l'entretenir aussi.
Et vous avez des coups de blues? Parce que là, on vous voit pétillante, radieuse, joyeuse. Vous avez des coups de blues de temps en temps ou pas, non, vous? Jamais. Jamais le moral qui baisse?
Non.
Oui.
Non, je n'ai pas, heureusement, de vraies raisons que le moral baisse.
Ouais.
Non, il y a des personnes qui ont vraiment de gros problèmes, et de santé, et de famille, de deuil, de tout ce que vous voudrez. Moi, je suis sur un petit nuage.
Ouais.
Ah oui.
Vous avez l'air d'y être très bien sur votre petit nuage. Dites-moi, vous êtes vacciné au moins contre le coronavirus? Non? Mais pourquoi?
Pourquoi voulez-vous qu'ils viennent me voir?
Vous n'êtes pas vacciné?
Mais non!
Mais c'est dangereux.
Non.
Non?
Non. Je lui ai dit non. Elle fermait la porte, elle est partie.
Vous n'avez pas peur, vous? Qu'est-ce qui vous fait peur dans la vie aujourd'hui?
Je sais pas. Bah, s'il y avait un bombardement, une guerre, quelque chose dans ce goût-là,
oui.
C'est dramatique. De voir des villes entières sous les bombes, des enfants qui meurent. Non, mais ces grands drames-là, heureusement, on ne les vit pas.
Ouais.
Mais c'est ça me fait très peur et on ne peut rien faire. On est embarqué dans un truc.
Vous l'aimez comment, la vie, Colette?
Comment elle est rose?
Non, vous l'aimez comment? Vous l'aimez comment, la vie?
Ben, je l'aime bien, elle est gentille avec moi. Je suis très gâtée. D'abord, parce que je vais bien. Et je pense qu'une bonne santé, ça aide.
Ouais.
C'est sûr. Et puis, j'ai eu aussi la chance que mes parents m'ont laissé un bel appartement.
Ouais.
Donc, je suis gâtée. Je suis au 14e, je vois la Seine. J'ai deux pianos. Qu'est-ce que vous voulez que je demande plus? Si, peut-être un petit monsieur. Oui.
Ah, vous êtes encore en recherche, alors?
Oui, toujours.
Ouais. Bon, s'il y en a un qui veut,
non,
hein,
non,
on
mais...
passera les messages. Hein. On fera passer, si vous voulez.
Bah, oui,
mais ça se mérite. Hein. Être avec Colette, à mon avis, ça se mérite. C'est pas donné à tout le monde. On finit en musique, Colette. Votre compositeur préféré, on disait, c'est Debussy. Mais là, on va écouter vous au piano, évidemment, avec Astor Piazzolla, Milonga dell'Angel. Piazzolla, Milonga dell'Angel, extrait de votre quatrième album. Celui-là, c'était 140 pianos. Depuis, il y a eu 150 pianos. Et donc, au mois d'avril, il y aura le coffret avec Debussy. Merci beaucoup, 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 Colette Mas, d'être venue
nous voir. Je serais touchée de votre intérêt.
Ah bah, c'est... Vous faites du bien. Vous faites beaucoup de bien.
Merci.
Quand on n'aura pas le moral, on vous réécoutera. À bientôt.
Gentil. Très.
Thomas Soto.
RTL Soir. RTL Soir avec Thomas Soto.
Et c'est l'heure de retrouver Julia Molcou pour la culture de l'actu. Bonsoir Julia.
Bonsoir Thomas, bonsoir à tous.
Incroyable, hein, Colette, incroyable. J'en suis pas revenu. 2020 aura donc été une année record pour le marché français du jeu vidéo. On parle de plus de 5 milliards 300 millions d'euros de chiffre d'affaires. Alors sortez vos manettes et branchez vos consoles, prenez vos joysticks, je sais pas si ça existe encore les joysticks, c'est un peu vieux. Le jeu vidéo est dans la culture de l'actu.
Et ben voilà, on y est. Le jeu vidéo est né dans les années 60, mais le tournant a lieu en 85 avec la console NES de Nintendo et Super Mario Bros, dont on entend la musique, qui va poser les bases du défilement horizontal, les raccourcis secrets et le fait qu'on peut recommencer le jeu avec un niveau de difficulté supérieur. Sans oublier qu'on pouvait jouer à deux à Super Mario Bros. Peggy, vous prenez Mario, moi je prends Luigi.
On va faire ça, oui.
Oh, ça c'est Tetris.
Bah oui.
Ah, c'est Tetris.
Si vous avez eu des enfants dans les années 80-90 ou si vous êtes né dans ces années-là, alors vous aussi, vous avez dû passer des heures à tenter de former des lignes avec les tétrominos qui tombaient du haut de l'écran et avec cette musique qui restait beaucoup dans la tête. Tetris.
Et après, ça s'accélérait, là, et bam.
Exactement. Tetris, vendu à plus de 170 millions d'exemplaires depuis sa sortie en 84, fait partie des grands classiques, hein, des jeux vidéo, qui ont donné des jeux de société, comme Pac-Man, ou qui sont passés de l'autre côté de la force, comme Space Invaders. Le jeu Space Invaders, grand succès des jeux d'arcade, dans lesquels un vaisseau devait venir à bout des petits envahisseurs,
enfin, c'est des petits,
a été transposé...
Un gros point vert qui tirait sur des petits points verts. Hein,
exactement. Et bien, il a été transposé en street art en 96. Vous avez sûrement déjà croisé l'un des 3962 petits personnages en mosaïque de carrelage répartis dans 80 villes du monde. Et ces invasions, et bien, on les doit à Frank Slama. Et il est exposé désormais dans les plus grandes galeries et les plus grands musées. Alors, qui a dit que le jeu vidéo n'était pas de l'art? Le jeu vidéo au musée, check.
Ouais, et le jeu vidéo au cinéma, double check.
Tous les programmes ont le désir d'être utiles. Sous peu, pas un de vous ne cherchera à communiquer avec son voisin ou avec son concepteur devenu.
Alors d'abord, il y a les films en hommage aux jeux vidéo et à l'intelligence artificielle. Et le premier d'entre eux, eh bien, on vient d'en entendre un tout petit extrait, c'est Tron, sorti en 82 et qui offrait une plongée folle dans le monde virtuel. Le film est devenu culte au point d'avoir une suite 30 ans plus tard, produit par Disney et dont la bande-son était signée Daft Punk.
C'est complètement à côté de Tron, je dois dire.
Ah, moi aussi. Ouais.
Oui, on est un certain nombre quand même. Hein. Bon, l'autre grand film hommage aux jeux vidéo, eh ben, on le doit à Steven Spielberg, qui en 2018 sortait Ready Player One. Celui-là, je l'ai vu. Le film se passait en 2045, dans une époque tellement chaotique que seule la réalité virtuelle offrait une oasis de liberté aux habitants de la Terre.
Les gens vont dans l'oasis pour pouvoir faire ce qu'ils veulent, mais ils y restent pour pouvoir être ce qu'ils veulent. C'est le seul endroit où j'ai l'impression d'être quelqu'un.
Là, je l'ai vu aussi, il était super long et j'ai super dormi. Il y a aussi tous les films adaptés de jeux vidéo, Julia.
Mais oui, il y a Sonic, Assassin's Creed, Tomb Raider, qui sont en effet sortis en film, mais qui ont très souvent déçu les fans de la première heure, comme Peggy et comme vous. À l'inverse, le jeu tiré du film E.T., et ça je l'ai découvert aujourd'hui, est considéré comme l'un des pires jeux vidéo de l'histoire. Et figurez-vous que des milliers de cartouches ont même été enterrées dans le désert du Nouveau-Mexique en 83.
Mais E.T., E.T.
Alors pour ceux qui...
E.T., Phone Home.
Ouais, c'est y a ouais. Un jeu vidéo tiré du film E.T. Ouais. Alors pour ceux qui douteraient encore de l'aspect culturel du jeu vidéo, j'aimerais quand même leur rappeler qu'il y a plein d'art dedans. Il y a de la musique, il y a de la littérature, il y a du cinéma, il y a de l'architecture, il y a de l'animation. Et il faut aussi rappeler que l'industrie du jeu vidéo est désormais plus importante que l'industrie du cinéma et de la musique réunie. Tiens, tenez d'ailleurs, pour finir, un mélange de ciné et de musique dans un jeu vidéo.
Oh.
Vous l'avez reconnu,
Michael.
Eh ouais, plusieurs jeux vidéo ont été inspirés par le roi de la pop. D'abord les jeux Moonwalker, sortis dans les années 90. Et puis en 2010, un autre jeu lui était consacré. Cette fois-ci, il s'agissait de reproduire des chansons et des chorégraphies sur ses grands tubes. Et là, pour le coup, Thomas, je suis sûre qu'avec votre niveau de danse, on aurait bien ri.
Ah, celle-là, je la tenais à la perfection. Ah non, c'était pas celle-là.
J'ai hâte de voir. Je vous ai entendu avec Colette et le dancing.
Faut que je demande à Colette encore quelques cours de danse avant de maîtriser.
Exactement.
Celle-là.
Exactement.
C'était génial, cette chanson.
J'adore. On est quand même passé de Debussy à Michael Jackson en 4 minutes. Hein.
Mais c'est ça la magie de la radio. Que voulez-vous?
C'est ça la magie de votre émission.
Et pourtant, vous avez 4 ans d'écart avec Colette. Hein. Ça se joue pas grand-chose.
Elle fait beaucoup plus jeune que moi.
je crois que je suis tombé amoureux.
De Colette.
Oui. La météo là-dessus, hein, parce que là, on ne peut pas couper ma gueule.
C'est sûr qu'on l'a fait parce qu'il va bientôt être 19h.
Non, allez-y. Ah demain, bon. Ça se dégage.